Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand est de retour pour la première émission de l'année.
Bonjour.
Bonjour Franck et bonne année donc à vous.
Bonne année Julia et bonne année à tous nos auditeurs. Je sais qu'ils sont chaque jour plus nombreux et je les en remercie.
Alors vous commencez l'année de façon princière.
Ah oui, en compagnie du prince Michel de Bourbon-Parme qui publie un ouvrage passionnant, Un prince dans la tourmente, où il nous raconte ses souvenirs de combat et vous allez voir que ce sont des souvenirs tout à fait incroyables.
Alors c'est le moment de reprendre les bonnes habitudes et de nous envoyer vos remarques et vos questions sur le site internet d'Europe 1.
Et vous savez que ces remarques et ces questions sont toujours les bienvenus.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Ça n'arrive pas très souvent, 3 ou 4 fois par an, tout au plus, un grand témoin de l'histoire publie ses mémoires ou bien des souvenirs sur une partie de sa vie. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment, les souvenirs militaires que nous livre le prince Michel de Bourbon-Parme avec Jean-Louis Tremblay font partie de ces récits hors du commun. Michel de Bourbon-Parme est le frère cadet de la reine Anne de Roumanie. Il descend par son père de toute l'illustre maison de Bourbon-Parme et par sa mère du fameux roi Christian IX de Danemark, surnommé le beau-père de l'Europe, car il avait marié, vous savez, tous ses enfants à des têtes couronnées, régnantes pour la plupart. Son livre de souvenirs, Un prince dans la tourmente, ne porte que sur ses années de guerre, les années de guerre du jeune Michel qui s'engage à 17 ans dans l'armée américaine, se trouve capté par l'OSS, l'ancêtre de la CIA, pour faire partie des commandos Jedburgh et se trouver largué en parachute sur la France occupée. Il nous racontera tout cela lui-même tout à l'heure. La terrible histoire par laquelle j'aimerais commencer se situe après la libération. Michel de Bourbon-Parme a 19 ans alors. Il s'est porté volontaire pour l'Indochine, où le Japon vient juste de capituler, ce qui fait peser un doute sur la mission officielle du commando parachutiste qui était censé aider à la libération de l'Annam contre les Japonais. En fait, il semble qu'ils doivent avant tout établir la liaison avec l'empereur d'Annam, Bao Dai, qui réside à Hue. On se demande un petit peu pourquoi on n'a pas envoyé les militaires directement et officiellement chez l'empereur. Mystère. Vous savez, les ombres qui planent sur la préparation de cette mission sont à la mesure du très grand flottement qui règne sur l'Indochine française à l'époque. Une Indochine que ses habitants appellent déjà le Vietnam. En effet, les nationalistes du Viet Minh, sous la houlette d'Ho Chi Minh, sont bien décidés à empêcher le retour des autorités françaises à la tête de leur colonie. Alors, sans avoir lui-même une conscience très claire de ce qu'on attend de lui, Michel est parachuté avec 5 camarades le 27 août 1945 au-dessus des rizières à une 20aine de kilomètres de Hue. On est là à mi-chemin de Hanoï au nord et de Saïgon au sud. L'avion qui les a largués en 2 groupes fait un 3e passage pour dropper des containers de matériel et puis il disparaît à l'horizon en balançant les ailes en signe d'au revoir. C'est un moment poignant pour les 6 jeunes hommes qui désormais seront seuls face à l'inconnu, un inconnu hostile, vous pouvez l'imaginer. La mission qu'on leur a confiée a été en vérité si mal préparée que les paras tombés à découvert ne vont pas tarder à être cernés par une foule d'autochtones, des gens armés, tant bien que mal. Ils doivent se rendre face au nombre. Officiellement, ils sont invités dans le village voisin. En fait, ils ne tardent pas à comprendre qu'ils sont plus ou moins prisonniers. On commence par les priver de leur matériel et puis on les désarme. Enfin, on les déshabille et on les conduit en 2 rangs, entre 2 rangs de soldats, 20 kilomètres plus loin, sous les crachats, sous les jets de pierre de la population locale. Les jeunes gens commencent à comprendre que désormais, ils vont être présentés quasiment comme des trophées de chasse. Ils sont exhibés, humiliés de toutes sortes de manières, afin de renforcer la propagande anticolonialiste des hommes d'Ho Chi Minh. Commence pour les 6 soldats un véritable calvaire, d'autant plus pénible qu'il relève de l'absurde. Après tout, ils ont été parachutés dans un univers parfaitement inconnu, au cœur d'un conflit dont ils ignorent tous les tenants et aboutissants. Pour le prince Michel, il n'y a dès lors plus qu'une obsession, s'évader. S'évader à tout prix, avec une seule question: est-ce qu'il en aura le temps? Un jour, dans l'après-midi, un officier Viet Minh les fait sortir de leur geôle. Il les conduit sur la place du village, les fait aligner tous les six devant un mur de terre séchée. Et là, il découvre qu'en face se trouve un peloton de 12 hommes armés. C'est le prince Michel qui raconte. L'officier s'arrêta devant chacun d'entre nous pour proposer une cigarette et demander si nous souhaitions avoir les yeux bandés. Je rejetai les deux offres. Je voulais affronter la mort en face. J'étais décidé à rester debout le plus longtemps possible, même avec 2, 3 ou 4 balles dans le corps, juste pour leur montrer comment un Français sait mourir. Je formulai cependant une requête. « Demandez à vos hommes de ne pas viser la tête. Pourquoi »« Pourquoi ?»« Pour mes parents. Je ne veux pas être défiguré si jamais ils retrouvent leur fils. » L'immonde sourit devant cette coquetterie. « D'accord. Mes hommes sont des tireurs d'élite, ils viseront le corps. » Puis il retourna vers le peloton, dégaina son sabre d'abordage, que je trouvais de plus en plus grotesque, l'éleva et commanda « En joue !» 12 canons pointèrent sur nous. « À mon commandement !» Nous étions tous dignes, calmes. Je ne pensais qu'à mon défi intérieur, rester debout, debout à tout prix. « Feu !» Une salve d'enfer retentit dans un nuage de fumée. Curieusement, je ne sentis rien, indemne. Un miracle peut-être, un sursis certainement. Je regardais à droite, à gauche, les autres n'étaient pas plus touchés que moi. Ils étaient tous debout, sauf Lebel et Martelly, qui étaient tombés à genoux. Aucun impact n'était venu frapper le mur. Les Viettes avaient utilisé des balles à blanc. C'était une farce macabre. Les villageois riaient à en pleurer. Ils tapaient sur le dos des soldats. Ils les embrassaient. Ils en redemandaient. Quelques jours plus tard, on va mettre ces soldats français en route, direction Hanoï. Hanoï se trouve à 426 km de là. Alors ils font plusieurs fois halte en route, bien entendu, et notamment dans l'ancienne demeure d'un gouverneur français. Ils ne savent jamais tellement ce qu'on veut faire d'eux. On les fait marcher essentiellement la nuit. Ils finissent par arriver à Vine, Vine qui se trouve être à l'époque le foyer de l'insurrection anti-française. Et ça se sent, l'atmosphère est extrêmement lourde. On les installe, si l'on peut dire, on les emprisonne dans une école en bois qui est minable et crasseuse. Ça ne durera pas longtemps, bientôt on les emmène ailleurs, vers une nouvelle destination, toujours aussi inconnue. Je cite le prince Michel, « Une grande maison dans laquelle un Vietnamien d'âge mûr, élégamment vêtu d'un costume en soie blanche, nous accueillit comme des êtres chers. » En fait, ils seront prisonniers juste à côté dans la maison des douanes. Le 22 septembre, ils sont transférés à Tan Son, dans un endroit un peu plus discret où ils vont rester 5 semaines. Et là, ils n'ont plus qu'une idée, c'est s'évader, monter un plan. 2 hommes montent un plan. Il y a Lebel et il y a Michel de Bourbon-Parme. Les autres votent et finalement, c'est le plan de Lebel qui est choisi. Le départ est prévu pour le 29 octobre, en pleine nuit. Ils vont réussir à s'évader. Ils vont marcher pendant 6 heures, essayer de se mettre à l'abri pour passer la journée qui suit. Seulement là, des paysans les ont repérés. Tout se repère dans la jungle indochinoise. On leur lie les mains, on les emmène, on les frappe, on les houspille. La marche va durer 5 kilomètres jusqu'au village. Et là, on leur arrache tous leurs vêtements et on les expose nus sur la place pour les humilier une fois de plus. Après quoi, on les transporte vers un nouveau village où ils vont rester cette fois 3 mois et demi dans des cages, puis dans une espèce de prison. Tout ça toujours improvisé et toujours extrêmement dur, on ne peut même plus parler d'inconfort à ce stade. Les 6 prisonniers français vont passer comme ça 6 mois et demi dans une succession de plus de 20 geôles différentes. Le 18 décembre au soir, on leur lie les mains de nouveau avec du fil de fer et on les embarque pour une nouvelle prison qui se trouve être un ancien temple. Et puis le 31 janvier, on les transfère encore dans une espèce de vaste hutte qui sert de grand cachot collectif. Et finalement, le 13 février, vers la fin de l'après-midi, on les renvoie à Tan Son. C'est là. C'est de là qu'ils étaient partis, c'est de là qu'ils s'étaient évadés. Vers 20h, des soldats viennent les chercher pour les conduire, alors cette fois au milieu de nulle part, en pleine jungle, au milieu des montagnes. La nouvelle prison qu'on leur a trouvée n'est qu'une sorte de maison en teck avec des marches et une véranda. Cela fait 6 mois qu'ils sont en prison, cela fait 6 mois qu'ils changent de geôle et on ne leur a toujours donné aucune explication.
Le voyage de Camille sur Europe 1, composé par Patrick Doyle, extrait de la bande originale du film de Régis Varnier, Indochine.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et le récit de Franck nous plonge aujourd'hui au cœur du maquis de l'Indochine.
Au début de l'année 1946, les prisonniers sont toujours dans leur grande maison de teck au milieu de nulle part. Et le 8 mars 46, à 8h30 du matin, en attendant que le gardien vienne récupérer la gamelle, Lebel chuchote ses ordres. C'est une énième, je dis bien une énième tentative d'évasion. Alors toi, Michel, dit Lebel, tu assommes le gardien, moi je prends le fusil, tu gardes la baïonnette, on attaque la maison, les autres vous suivez. Et à l'heure dite, parce qu'ils sont très ponctuels ces gardiens-là, le soldat de faction ouvre la porte, se penche pour ramasser les bols vides. À ce moment-là, Michel frappe de toutes ses forces sur sa nuque, mais ce n'est pas suffisant pour l'assommer. Il n'en a pas moins lâché son fusil. Castella s'en empare et là, tout s'enchaîne très rapidement. Je donne la parole au prince Michel. « Comme j'avais assommé le gardien, dit-il, je m'élançais le premier, franchis la porte de notre hutte et me précipitais jusqu'au poste situé à moins de 20 mètres. Le sol était encore humide de la pluie tombée au cours de la nuit. Alors que j'étais à mi-parcours, le sergent surgit sur la véranda du poste, armé d'un fusil de chasse. Me voyant courir vers lui la baïonnette à la main, il relève son canon. À une si courte distance, un tel fusil est plus efficace qu'une arme de guerre. Il m'aligna. Je voyais la gueule noire de son canon. » Il pressa sur la détente au moment où j'abordais la première marche de son escalier et glissais sur le bois détrempé. C'est cette chute qui me sauva. La décharge passa au-dessus de ma tête. Je me relevais, la baïonnette toujours à la main, en hurlant, et le sous-officier crut sans doute qu'il avait affaire à une sorte de diable blanc que ses plombs n'avaient pas réussi à tuer. Alors il jeta son fusil, disparu. Je ne perdus pas une seconde. Aussitôt remis debout, j'avalais les marches 4 à 4 avec ma baïonnette et m'engouffrais dans la maison. Et à ce moment-là, Michel se rappelle un truc qu'il a appris dans son entraînement commando aux États-Unis puis en Angleterre. Il se met à crier, à pousser un cri effroyable, et ça marche. Les deux geôliers se sauvent par les fenêtres et les voilà qui disparaissent dans la forêt. « Je sortis du poste de garde, raconte Michel, redescendis les marches de la terrasse et me dirigeai vers notre hutte en gueulant foudrage. « Mais alors, qu'est-ce que vous foutez, bande de trouillards ?» Lebel émergea de notre hutte. « Tu es vivant ?»« Bah, bien sûr que je suis vivant, les gardes sont partis. » Ils me rejoignirent tous et Martelly avoua. « Tu sais, on te croyait mort, on a entendu un coup de feu. » Et les voilà, c'est pour eux le début de la cavale, une cavale terrible dans cette jungle vietnamienne où ils essaient de marcher comme ils peuvent le plus vite possible. Il faut sans cesse monter, descendre. Nous n'avions pas de machette, raconte Michel, et nous nous frayions un chemin avec les baïonnettes. Or, la jungle était touffue. Nous finîmes par suivre les couloirs des animaux. Ceux des éléphants étaient de véritables autoroutes. À la nuit tombée, nous nous affalâmes dans une bambouseraie impénétrable. Alors là, ils peuvent enfin souffler un peu, ils regardent ce qu'ils ont comme provisions, ils essaient de se faire à manger, ils se nourrissent, ils installent un véritable bivouac. Je laisse toujours la parole aux fugitifs. Pendant 10 jours, nous ne fîmes que marcher le jour, dormir la nuit. Soucieux d'éviter toute présence humaine, nous progressions difficilement, cherchant des passages dans une forêt de plus en plus épaisse. Les baïonnettes s'émoussaient, s'ébréchaient. Une muraille de ronces et d'épines nous obligeait à l'attaquer à main nue ou à slalomer à l'aveuglette. Nous étions couverts de sang, de coupures, de griffures, de piqûres. Nos treillis étaient lacérés. Et plus loin, le prince avoue, notre forme physique déclinait à vue d'œil. Malgré ses rangers intacts, le jeune était plus affaibli que nous. Il avait refusé de faire du sport pendant 6 mois et maintenant il expiait sa paresse. Le matin, il fallait le secouer pour qu'il démarre. Durant la nuit, l'un d'entre nous montait systématiquement la garde. Il entendait parfois des tigres qui chassaient en couple et communiquaient par sifflement. Un matin, on découvrit une carcasse de biche démembrée et encore chaude à une centaine de pas de notre campement. On s'appropria ce que le seigneur de la jungle, là-bas au Vietnam on l'appelle Monsieur le Tigre, ce que le seigneur de la jungle avait laissé, ça leur fait au moins et pour une fois un peu de viande à manger. Au 10e jour de notre cavale, raconte Michel de Bourbon-Parme, nous n'avions toujours pas fait de mauvaises rencontres, mais notre santé se détériorait constamment. Le paludisme nous foudroyait tous à un moment ou à un autre, et sans quinine, il fallait attendre que la crise et la fièvre retombent d'elles-mêmes. Ce qui faisait perdre du temps au groupe. Nos muscles se contractaient tout seuls et nous empêchaient de dormir plus de 5 minutes d'affilée. Si seulement nous avions été certains d'être sur le bon chemin, hélas, nous avions des controverses incessantes au sujet de la direction et de l'itinéraire. Il ne faut pas oublier que ce sont des gamins, ces militaires-là. Ils ont 19, 20, au maximum 21 ans. Seulement, un matin, ils finissent par se faire repérer. En un clin d'œil, nous fûmes entourés par des soldats vietnamiens surgis de partout. Une dizaine de tirailleurs nous mirent en joue. L'officier s'avança vers moi et pointa son fusil sur mon ventre. « Jetez vos fusils !» Quatre d'entre nous étaient armés, mais avec l'humidité et l'absence d'entretien, il n'était pas certain que nos vétustes fusils fonctionnent encore. En tout cas, ils étaient forcément dissuasifs. Alors je répondis « Jetez les vôtres d'abord !» Là, il y a un risque, évidemment, mais il y a aussi un risque pour les Vietnamiens. Il y a toujours des balles perdues dans une fusillade. C'est la raison pour laquelle je me permis d'enfoncer mon index dans le canon de l'officier et de le détourner avec délicatesse, raconte le jeune prince. Ensuite, je lui pris le bras, comme on le fait avec un vieil ami dans un jardin anglais. « Laissez-nous partir. On rejoint nos camarades juste de l'autre côté de la montagne. Vous savez bien que les Français sont là-bas. Ne faites pas l'idiot, il ne vous arrivera rien. Si vous touchez à un seul de nos cheveux, ils vous tueront tous jusqu'au dernier. » Et tout en bluffant de la sorte, raconte-t-il, je me dirigeais à petits pas vers la forêt dont la lisière se trouvait à une centaine de mètres. L'officier se laissait faire, la lisière se rapprochait 50, 40, 30 mètres. Mes 5 compagnons avaient un peu d'avance sur moi, il devait rester 20 mètres entre nous et la forêt. Lorsque l'officier vietnamien fit ce qu'il aurait dû faire depuis le début, il se plaqua au sol et ses hommes ouvrirent le feu. Ce furent les 20 mètres les plus longs de ma vie. Et bien aussi incroyable que cela paraisse, les balles me frôlèrent sans me toucher. Par la suite, ils vont tomber sur une piste qui leur permet de courir à perdre haleine avant d'aller se fondre dans la forêt. Et là, Michel se souvient d'un moment de découragement. « Assis sur une souche, écrit-il, je restais une heure à pleurer toutes les larmes de mon corps, tremblotant, sanglotant. La fatigue, la souffrance, la peur, la faim, la fièvre, le stress, le guet-apens de l'après-midi, c'en était trop. Il fallait que je décompresse et c'était le seul moyen. Une vidange nerveuse, en quelque sorte. Mes compagnons voulurent me réconforter, me dorloter. Ce fut encore pire. Seul Lebel comprit mon état. Laissez-le, il a besoin d'être seul. À compter de ce 19 mars, écrit Michel de Bourbon-Parme, il plut nuit et jour sans discontinuer. Le soir, nous bâtissions un abri pour essayer de nous protéger de ce déluge. En vain, nous étions tous déprimés. Le 22 mars, vers midi, nous retrouvâmes cette piste qui, d'après les estimations que nous avions faites, devait nous conduire jusqu'au village salvateur de Napé. Seulement ce soir-là, une fusillade éclate au niveau de la route alors que Michel commençait à préparer le dîner. Castella a juste le temps de crier « Alerte, alerte !» puis c'est le silence. Martelly remonte vers ses camarades en hurlant « Allez-y, ne vous occupez pas de moi !» Et là, Michel raconte « J'étais en train d'emballer mes affaires lorsqu'il arriva à côté de moi et qu'une grenade fut jetée par-dessus les rochers. Elle roula entre nous deux. Avant que Martelly plonge dessus, son corps fit un soubresaut quand elle explosa avec un bruit sourd. J'étais médusé au point de penser que Martelly avait caché une planche sous lui pour se protéger, mais non. Il venait de donner sa vie en sauvant la mienne. » La voix de Lebel me ramena brusquement sur terre. « Viens, dépêche-toi !» Je fis demi-tour et laissai là mon camarade sacrifié. Pendant que je me ruais vers le sommet, j'entendais, derrière les rochers, les Viettes monter à l'assaut en hurlant. Nous ne pouvions plus rien faire pour Castella. À ce moment-là, les fugitifs ne sont plus que 4. Obsédé par sa culpabilité, Lebel en oublia de commander, raconte le prince Michel, qui raconte à quel point ils finissent par perdre le moral l'un après l'autre. Au soir de ce 22 mars, écrit-il, nous arrêtâmes sur un promontoire rocheux qui saillait à une dizaine de mètres d'une petite cascade. Ils descendent pour essayer de se rafraîchir. À ce moment-là, ils se rendent compte que les Vietnamiens sont partout autour, avec armés de fusils, armés de Sten. Je me précipitais vers mes camarades, écrit-il. Désormais parfaitement réveillés, nous abandonnâmes le peu de matériel que nous possédions, n'emportant qu'une musette avec le riz, et nous dévalâmes le cours du ruisseau, les soldats à nos trousses. C'était l'Alali, les pierres tranchaient nos pieds nus, déjà à vif. Au bout d'un quart d'heure, nous nous regroupâmes pour respirer. On traverse le ruisseau et on remonte de l'autre côté, vers la crête. Seulement là, cette fois, c'est Aguirec qui fait blocage. « Non, pas question. Tu es fou. Moi, je continue. » Il continue « En fait, ça veut dire qu'il part seul vers une mort certaine et ils ne sont plus que trois, Lebel, le jeune et Bourbon. Les jours suivants, écrit ce dernier, furent les pires que nous vécûmes. Nos vêtements étaient en haillons, nos corps en charpie et nos esprits ne valaient guère mieux. Le 26 mars, juste avant le coucher du soleil, mon attention fut attirée par un bruit de moteur. Nous étions revenus aux abords de la route. 50 mètres plus bas, un camion chargé de soldats passa sous nos yeux. » 26, 27, 28 mars, ils finissent par sombrer de fatigue. Michel raconte « Lorsque je me réveillais le lendemain matin, je vis Lebel assoupi à quelques mètres de moi, mais plus aucune trace de Lejeune. Il avait tout simplement disparu. Plus tard, les deux survivants devaient apprendre que leur camarade avait servi de pâture à un tigre. Je dis bien les deux survivants, pas les deux rescapés. En effet, le 28 mars, c'est-à-dire 7 mois jour pour jour après leur capture, voilà que Lebel et Bourbon sont repris par les forces du Viet Minh. On peut dire qu'ils auront fait tout cela pour rien. On nous attacha les mains et nous fûmes conduits à l'hôtel de ville, écrit le prince Michel. Avec Lebel, nous nous attendions au programme classique, bastonnade, interrogatoire, enfermement. Au contraire, un sergent s'enquit de notre santé et voulut savoir depuis combien de temps nous n'avions pas mangé chaud. « 6 jours, dit Lebel. L'autre devait s'en douter en voyant les squelettes vivants que nous étions. Il donna un ordre bref et un soldat nous apporta du café. Oh, un café léger, mais sucré. Le meilleur café du monde. » Ce même sous-officier nous demanda « Où est le troisième ?» Nous répondîmes qu'il était perdu. À ce moment-là, ils ne savent pas encore qu'il a été dévoré par un tigre. Et c'est pour notre narrateur la fin de 30 ans de souffrance, car le sergent, à ce moment-là, leur apprend que des accords franco-vietnamiens viennent d'être signés le 6 mars 1946. Je laisse les derniers mots à notre narrateur. « Pendant cette conversation, dit-il, je voyais trouble, mes oreilles bourdonnaient, ma tête tournait, et pendant que Lebel et l'officier discutaient les détails de cette expédition, je défaillis. » Tout à l'heure, le prince Michel de Bourbon-Parme, qui est avec nous dans ce studio, nous racontera le reste de ses aventures et notamment son incroyable périple à travers la France occupée. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety.
Un extrait sur Europe 1 de The End, The Doors, extrait de la bande originale du film de Francis Ford de Coppola de 79, Apocalypse Now. Et nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, dont vous venez de raconter la captivité, le prince Michel de Bourbon-Parme.
En 1949, Michel de Bourbon-Parme faisait paraître aux presses de la cité un récit intitulé « En parachute ». C'était ses aventures de commando parachutiste et il racontait aussi cette captivité de 8 mois en Indochine que je viens de vous raconter. Il a repris récemment ce récit avec Jean-Louis Tremblay pour l'étoffer et pour lui donner la profondeur que seul apporte l'expérience. Le nouveau livre publié chez Nimrod s'appelle « Un prince dans la tourmente » et c'est peu dire que je le recommande à tous les amateurs de ce genre de souvenirs limites, des souvenirs rapportés des confins du possible. Nous avons la chance de recevoir Michel de Bourbon-Parme dans ce studio cet après-midi. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être des nôtres. Alors, ce qu'il faut rappeler avant toute chose pour mieux comprendre ce qui vous avait amené à cette terrible période, à cette captivité indochinoise, ce sont les origines de votre engagement. Vous avez quitté l'Europe pour les États-Unis avec votre famille en 1940, donc au moment où les Allemands déferlent sur l'Europe, et 3 ans plus tard, en 1943, alors que vous venez d'intégrer l'armée américaine, vous êtes repéré par l'ancêtre de la CIA, par l'OSS, service de renseignement, et vous êtes, j'allais dire, versé, on pourrait presque dire, catapulté dans l'opération Jedburgh. Qu'est-ce que c'est que cette opération Jedburgh ? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, le commandement suprême interallié a recruté de jeunes volontaires parachutistes, il y a là des Britanniques, des Américains, des Français, afin de mener une des opérations les plus secrètes et délicates de la Seconde Guerre mondiale, cette opération Jedburgh. 300 commandos. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont été entraînés, surentraînés à toutes les techniques de la guerre non conventionnelle. Ces 300 jeunes gens doivent être parachutés sur l'Europe occupée par équipe de 3. On imagine l'extrême difficulté des missions. Et on est là donc on est à l'été 1944. Tout à l'heure, en compagnie d'Olivier Dechaune, nous allons revenir sur ces fameux commandos Jedburgh, sur les Jed pour parler le jargon militaire. Mais ce que j'aimerais déjà, Monseigneur, c'est que vous nous racontiez, vous avez été parachuté en France à l'été 44.
J'étais parachuté le 8 juin 44. Et l'équipe était de 3 officiers. Le commandant, c'était un officier qui s'appelait Macpherson, écossais. Moi-même, le second. Et le troisième était un radio qui s'appelait Brown.
Dans le sud du Massif central, vous êtes parachuté,
oui, ça ? C'est oui, c'est ça. Car la division d'Asreich...
La division SS d'Asreich, malheureusement tristement célèbre.
Était à Montauban, c'est pour, en attente.
Pour les plus jeunes de nos auditeurs, je rappelle que c'est cette division qui va remonter, passer par la Loire, et qui, au passage, va commettre les terribles méfaits de Tulle et surtout de Radour-sur-Glane, bien entendu.
Parfaitement.
Alors vous êtes parachuté de jour, de nuit, ça se passe
nous
comment?
Nous sommes parachutés de nuit, toujours de nuit, et en arrivant sur le terrain Chénier, un jeune... Maquisard se précipite et il dit « Un officier français vient d'être parachuté avec sa femme. » Alors j'hésite, je me dis « Non, Nupip, qu'est-ce que j'ai encore fait ?» Et puis finalement, c'était Macpherson qui était parachuté en France avec son kilt, qui est une jupe d'Écossais.
Il l'avait pris pour l'épouse.
Oui, c'était un parachutage assez facile. J'ai jamais été inquiet du parachutage.
Et comment avez-vous été recruté pour faire partie de cette opération Jedburgh ?
Très rapidement, je suis devenu officier au bout de 5 mois et demi, sous-lieutenant. Le consul de France était là, il m'a dit non, vous n'êtes pas sous-lieutenant, vous êtes aspirant. Et il m'enlève les trucs et il me donne le galon d'aspirant. Parce qu'en France, les premiers galons ne sont jamais un officier, mais c'est un aspirant pendant une période d'un an pour voir s'il mérite ou non. Je reçois donc du consul mes galons et un monsieur en bas de l'escalier me dit « Vous voulez venir avec moi ? J'ai quelque chose à vous demander. » Alors je descends l'escalier, je vais avec lui dans un bureau. Il m'a dit « Écoutez, est-ce que vous voulez vous joindre à l'OSS ?» Je dis « Comment ?» « Est-ce que vous voulez vous joindre à l'OSS ?» me dit-il. Je dis « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il m'a dit « Vous allez voyager beaucoup, vous allez vivre une aventure, j'ai vu vos notes, vous êtes très bien, on aimerait bien vous avoir dans l'OSS. »« Ah bon ? » ?»« Et dites-moi, la paye est combien ?» Il m'a dit « Le double. »« Ah bon ? » ?»« Ben ça c'est très bien. » Alors je suis ravi d'être OSS. Et il me tend un fiche. Il me dit, maintenant vous signez ça. Je dis, il faut que j'en parle au consul avant. Il me dit, c'est pas la peine. Nous sommes tous des amis, il n'y a pas de problème. Bon, je le signe. Et il me dit, maintenant vous faites part de l'OSS. Vous avez, je crois que c'était 5 jours de permission pour voir vos parents. Et puis, on se retrouve à Washington. Washington, un car nous attend. Nous étions toujours 3 Français ensemble. Jacques Martin, Guy de la Roche et Michel de Beaumont. C'était très sympathique parce qu'on était devenus très amis. Nous voilà partis à Camp David. Camp David, à côté de Washington, à peu près une heure et quart. C'était le camp qui maintenant abrite les présidents quand ils veulent
passer. Oui, c'est la résidence secondaire des présidents des États-Unis. Oui.
Exactement. Et à Camp David, je suis resté un mois. En arrivant, ils m'ont dit « Vous vous déshabillez ». Ils nous ont entièrement déshabillés. Tout ce qu'on pouvait avoir, qui n'était pas le corps même, était enlevé. C'était assez inouï. Et ils nous mesuraient et ils nous donnaient un nouvel uniforme. Un genre de battle dress. c'était notre nouvel uniforme. Et moi, il me collait « second lieutenant », parce que l'aspirant, il ne savait pas ce que
c'était. Second lieutenant, comme il dit, oui.
J'étais assez fier. Et pendant un mois, j'ai appris des choses que je n'imaginais pas. J'ai appris comment faire sauter des ponts, faire sauter des routes, être un assassin très silencieux. C'était absolument inouï. De nouveau, je dis, j'avais 17 ans, pour moi, je dirais que c'était plus qu'un jeu, mais c'était presque un jeu. Et j'ai dépassé très très facilement ces examens après un mois. Et puis je dis, maintenant vous allez partir pour l'Angleterre. On n'avait rien à dire. On prenait notre pacta, nous avions tout. C'était nouveau, les montres, les stylos, les tout.
Vous étiez un homme neuf.
Oui, mais sans aucun nom de marque. Quelqu'un vous trouvait avec votre stylo, il n'y avait pas quelque chose d'écrit dessus. Ça pouvait être un stylo de n'importe quel pays. J'arrive en Angleterre au bout de 4 jours de voyage avec la Queen Elizabeth. Arrivé à Londres, toujours Jacques Martin et Guy de la Roche. Arrivé à Londres, on est arrêté dans un hôtel qui s'appelle le Rembrandt Hotel. Et le Rembrandt, c'était un refuge de vieilles dames. Alors avoir quelques parachutistes dans un hôtel de refuge de vieilles dames, c'était pas très très bon. Et on est resté là à peu près 2 semaines. Puis nous sommes allés dans un lieu, c'était un château à 1h15 de Londres, où on nous attendait. Et en arrivant, nous étions le premier groupe Jed, et que j'avais encore pas entendu parler de ce nom de Jed, mais nous étions le premier groupe Jed à arriver là. Et il n'y avait pas suffisamment de place pour d'autres, et nous étions donc dans des chambres somptueuses dans ce château. À la réunion, l'officier qui s'appelait, je crois, le colonel Musgrave, qui nous reçoit, nous dit « Maintenant, vous êtes des Jed ». Alors on leur dit, mais bon, des Jed, mais qu'est-ce que c'est que des Jed ?
Si vous voulez, Michel de Bourbon-Parme, qu'est-ce que c'était que ces Jed ? C'est ce que nous allons voir avec Olivier Dechaune dans un instant.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant.
Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
L'aventure incroyable, à la fois rocambolesque, mais aussi très dramatique, d'un prince dans la tourmente, c'est le titre de l'ouvrage de Michel de Bourbon-Parme avec Jean-Louis Tremblay, édité chez Nimrod. Michel de Bourbon-Parme était en train de nous raconter comment il en est arrivé à faire partie de cette extraordinaire opération Jedburgh. Et nous avons Olivier Dechaune ici même avec nous pour nous parler de cette opération incroyable. Elle a été mise sur pied plus tôt qu'on ne pourrait penser, Olivier Dechaune.
Alors, l'opération Jedburgh avait comme objectif de résoudre un problème, celui, je dirais, d'une certaine compétition entre les services américains, français et anglais. Donc il fallait trouver le moyen de coordonner les choses et de les faire travailler ensemble, sachant que chacun, et surtout le général de Gaulle, était fier de leur indépendance et ne voulait pas se noyer
avec
les autres.
Pas de fusion du tout.
Pas de fusion. Donc il a fallu trouver une solution et finalement le projet de Jedburgh a été approuvé par le général de Gaulle tout début 1943, ce qui était aussi une façon de reconnaître son autorité à lui sur les opérations futures en France. Alors ça a été véritablement une première mondiale, parce que c'est la première fois qu'une opération véritablement multinationale au niveau de la cellule de base a été lancée et mise en place. C'était donc les trois nationalités, un Français, un Anglais, un Américain qui étaient parachutés ensemble, 2 officiers, un radio, en uniforme, derrière les lignes, avec comme objectif de coordonner la résistance, sachant que la résistance française avait été énormément gonflée en termes...
L'idée, c'était de seconder la résistance ou de la chapeauter, si je puis dire ?
L'idée, c'était de la chapeauter, parce que la résistance française avait beaucoup gonflé en termes de nombre à cause du travail obligatoire du STO, et beaucoup de jeunes fuyant le STO ont été dans les maquis, mais eux-mêmes n'étaient pas armés, pas organisés,
pas entraînés surtout, voilà.
Et pas entraînés. Donc le rôle de Jedburgh était à la fois d'entraîner les maquis et d'organiser leur activités et leurs actions avec le haut commandement. Le but, c'était, il y avait 3 buts peau, c'était paralyser les mouvements des troupes allemandes, éviter qu'elles remontent vers les plages de débarquement, obliger l'ennemi à distraire du front une partie des troupes, et puis faciliter l'avance des troupes américaines, par exemple, sauver les ponts, alors qu'en général, en cas de guerre, tout le monde fait sauter les ponts.
Et ça a été efficace, cette opération ?
Cette opération a été tout à fait efficace. La preuve, c'est que même le commandement américain a reconnu que sans l'aide des maquis français, les pertes des troupes, ou même il y aurait eu un véritable risque sur un échec du débarquement.
On en a très peu entendu parler de cette opération Jedburgh. Ça a été une découverte progressive pour l'histoire contemporaine.
Alors, il y avait un principe chez les Jedburgh, il y avait 100 Français. Sur ces 100 Français, tous avaient fait, c'était obligé à garder le secret, le secret le plus absolu.
Il y avait un côté mission secrète, néanmoins.
Totalement secrète, il ne fallait pas qu'ils disent ni où, ni quoi, ni comment. Et ce secret, ils ont continué à le cultiver, à le garder. Et je dois dire que moi, je suis fils de Jedburgh, et j'ai commencé à connaître un peu l'histoire lorsque moi-même j'ai porté un galon et qu'entre eux, du coup, ils me racontaient l'histoire des uns ou des autres.
Ça, ouais. Michel de Bourbon-Parme, vous nous avez dit que ce parachutage dans la France occupée, donc on est au sud du Massif central, en ce début du mois de juin 1944, s'est effectué pour vous dans de très bonnes conditions. Vous dites que le parachutage lui-même s'est bien passé. L'accueil dans le maquis a été bon également ?
La difficulté, c'était justement d'obtenir un accueil. Il y avait des maquis qui étaient organisés, qui avaient d'autres noms, et qui ne voulaient pas être embêtés par des gens qui arrivaient de Londres. Qu'est-ce que c'est que ces camouflards là-bas à Londres ? Et ces maquis-là n'étaient pas tellement populaires. Nous sommes tombés dans un maquis qui était FFL. On nous avait dit à Milton Hall que nous étions la première équipe parachutée en France. Nous étions assez loin du débarquement, parce que nous étions dans le Massif central. Mais c'était là que se trouvait la Das Reich Division.
C'est là que tout se jouait vraiment. Oui.
Qui avait été placée par Hitler entre le Pacifique... Non.
Entre l'Atlantique et la Méditerranée.
Et la Méditerranée.
Donc cette division Das Reich, vous avez eu pour mission de constamment la malmener, si je puis dire.
Cette division, que vous dites tout très justement, était très pressée. Mais ce n'était plus la grande division Das Reich. Car la grande division Das Reich était restée en Russie, où elle avait énormément bagarré et perdu énormément de ses soldats et officiers. Elle est revenue à Berlin avant le débarquement, juste avant le débarquement, pour être rajeunie. Et ce sont des jeunes, avec un ou deux officiers de l'ancien régiment, qui composaient la division Das Reich.
En quoi consistaient vos propres opérations ? Quelles étaient les missions que vous accomplissiez ?
Écoutez, c'était un peu le maquis qui nous disait ce qui se passait. Il fallait qu'on coupe toutes les voies de communication entre le Massif central où se trouvait donc la division et la Normandie. Alors, c'était très grand comme territoire, mais nous n'étions pas seuls. Nous étions la première équipe de trois qui étaient près de la division d'Achai quand elle commençait à faire mouvement. Après, il y avait plusieurs autres équipes de trois.
D'autres Jedburgh qui sont venus vous rejoindre.
Pas nous rejoindre, mais d'aller plus près du débarquement quand la division continue. Parce qu'on ne va pas à trois arrêter une division allemande.
Bien sûr.
On n'a pas essayé d'ailleurs, on a fait simplement sauter les ponts.
Alors le temps passe, il faut que nous avancions. Dites-nous en quelques mots comment vous avez fini cette guerre avant de vous engager pour l'Indochine. Comment est-ce que c'est fini pour vous la Seconde Guerre mondiale ?
La Seconde Guerre mondiale s'est terminée parce qu'il n'y avait plus d'Allemands en France. J'avais suivi avec Macpherson et nous avions fait du sabotage devant les lignes jusqu'à à peu près après Paris. Et là, nous nous sommes arrêtés parce que Leclerc avait occupé Paris et notre travail était terminé. Donc nous sommes rentrés à Paris. Macpherson et la radio sont partis pour l'Italie, où ils avaient une autre mission car les Allemands occupaient encore le nord de l'Italie. Et j'ai quitté MacPherson à ce moment-là, et moi je suis allé à Paris pour me faire, non pas démobiliser, mais pour donner mes instructions de ce que j'avais fait pendant la période où j'étais jet.
Faire le rapport de toutes les opérations.
Ouais, le rapport. Je ne suis pas militaire du tout, vous voyez. J'ai fait le rapport et je me suis fait engueuler par l'officier qui me faisait ce rapport. C'était un officier très sympathique, colonel, qui m'a dit « Mais vous n'avez pas fait de prisonnier. Je venais du maquis. » Et il me dit ça, ça m'a choqué. Et j'étais furieux. Et je dis « Mon colonel, j'espère qu'il n'y aura pas une guerre comme celle-ci. Mais s'il y en a une comme celle-ci, vous irez faire vos prisonniers vous-même. Mon colonel, mes respects, je suis parti. »
Et néanmoins, vous auriez pu, a priori, changer totalement de parcours et vous vous engagez pour l'Indochine, dans la foulée.
J'ai trouvé les camarades qui partaient tous en Indochine. Et il me dit, Michel, viens en Indochine, là-bas, il y a une guerre, et ça ne va pas durer longtemps, c'est un truc... bon, tu viens ? Alors, au départ, je ne suis pas venu parce que je suis resté un peu à Paris. Et puis, je les ai rejoints. Nous étions entraînés pour nous habituer à la jungle, aux fusils des Japonais, pistolets et autres, pour pouvoir, si on avait besoin de les utiliser, savoir exactement comment ça marchait. Et nous étions, avec 6 autres camarades, parachutés à Hué.
Voilà, et là, si je puis dire, la boucle est bouclée, puisque c'est précisément ce que j'ai raconté pendant la première partie de cette émission. On voit donc par quel chemin vous êtes arrivé à ce qui va devenir un véritable enfer, on peut le dire.
Oui, c'était vraiment, je crois, une erreur, mais bref.
Il y aurait beaucoup à raconter sur tout ce que vous avez fait, évidemment, après l'Indochine, notamment en matière de course automobile, en matière d'industrie. Nous avions déjà parlé à ce même micro des bons offices que vous aviez accomplis au nom du gouvernement français auprès du Shah d'Iran, et aussi là dans les années 1970. Ça nous entraînerait très loin et ce n'était pas l'objet de cette émission. Je voulais demander, avant que nous quittions, je voulais demander à Olivier de Schoen ce qu'on peut faire pour connaître un peu mieux l'histoire des Jed. Où est-ce qu'on peut les trouver?
Écoutez, il y a maintenant un certain nombre de documents. Entre autres, Michel de Bourbon a écrit son livre.
Alors donc, Un prince dans la tourmente, ça c'est chez Nimrod. On a aussi Opération spéciale, 20 ans de guerre secrète. Ça c'était le colonel Sassi qui a raconté ça, qui était également un Jed, qui était lui originaire de Corse. C'est également avec Jean-Louis Tremblay.
Et puis, il commence à y avoir, il y a eu un certain nombre de Jed qui ont fait des enregistrements oraux sur bande enregistreuse qu'on peut retrouver à la bibliothèque ou au musée des armées ou aux archives des armées à Vincennes. Mon père a aussi écrit des mémoires qui sont disponibles au musée de Vincennes. Et donc c'est à partir de là qu'on a
tout ça laisse entendre
éléments.
Néanmoins que le volume, le grand livre sur cette aventure tout à fait extraordinaire et sur cette opération tellement essentielle dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce livre-là reste à écrire, si je comprends bien.
Absolument.
Merci beaucoup, merci Monseigneur d'avoir été des nôtres, et nous nous retrouvons donc demain pour de nouvelles aventures.